J'ai un bac en sexologie. J'ai travaillé 5 ans comme sexologue.
La philanthropie, c'est encore plus compétitif que l'entreprise privée.
Souvent, oui, je me dis, est-ce que je ne partirais pas? Mais ce serait abandonner mon pays.
Ma plus grande crainte, c'est de tomber dans l'oubli. Et là, j'ai fait, hey, c'est là, je m'en vais.
Sans fil. Avec France Beaudoin qui nous fait découvrir l'univers de plusieurs artistes chaque semaine depuis des années. Merci France.
Merci à toi de l'invitation.
En direct de l'univers, c'est un grand succès. C'est ton concept à toi. Ben, une idée que tu as eue apparemment, selon mes sources, sur un traversier en allant aux Îles-de-la-Madeleine.
Oui, effectivement. Juste avant, il y a des gens qui chantaient « Partons, la mer est belle ». Ça m'a fait pleurer. Puis de l'autre côté, il y avait quelqu'un qui passait avec « Earth So Good ». Et là, je suis devenue complètement exaltée parce que ça me rappelait une décapotable à Vancouver avec des chums alors que c'était la liberté totale. Alors, je me suis dit, OK, entre les deux, c'est ça de la musique.
C'est ça. Trois tunes
et des empreintes
qui,
surtout.
Qui t'amenaient ailleurs.
C'était aussi, en fait, le lien qu'on a fait. Puis je suis revenue à la maison, puis j'ai fait le lien avec ma famille. Puis avec... Chez nous, ça a toujours été ça. Chez nous, c'était des gros parties et c'était des surprises tout le temps. Le party, et encore aujourd'hui, finit toujours par retourner sur quelqu'un. Alors, il y a une gang ou une personne qui ne sait pas, mais se fait fêter, se fait chanter. Ça va bien, ça va mal. Ça cogne à la porte. C'est une partie de la famille. On est 80 total.
Ben oui, j'ai demandé, êtes-vous une grosse famille? Tant que ça.
80 total. Ouais. Et ça, quand ma mère, par exemple, a eu, je ne sais pas, c'est 59, 60, Jeanne d'Arc Charlebois, on l'avait appelée. On lui avait dit, écoute, ma mère vous a chanté toute sa vie, mais elle aime la femme avant-gardiste que vous étiez pour la liberté que vous aviez également. Alors, je l'ai appelée en disant, je suis la fille d'une femme qui vous a chanté toute sa vie. Est-ce que vous viendriez en surprise? Jeanne d'Arc est venue cogner à la porte. Ma mère a failli perdre connaissance à la porte avec la pianiste de Miles Davis qui était rentrée. Alors, c'est tout ça mis ensemble où je me suis dit, OK, ça marche chez nous. Ouais. Pourquoi ça ne marcherait pas à grande échelle? Et c'est ce qu'on fait.
Fait que l'univers de France Beaudoin est composé de beaucoup, beaucoup de chansons, de toutes sortes.
Toutes sortes.
Mais celle qu'on m'a suggérée, puis j'ai eu quelqu'un qui m'a dit plein de belles choses sur toi dans l'oreille.
C'est-à-dire?
Si je te dis Vincent, ça dit quelque chose.
Ça m'inquiète.
Vincent Gratton, ton chum. Ton mari, êtes-vous marié?
Ah oui, on est mariés.
Vous êtes mariés,
on s'est mariés obligés pour adopter.
Ah, c'est ça, oui.
Exact.
Summer of 69.
Oui, ça. Premier show que je vois à Québec, exactement, dans une voiture qui n'a pas trop de fond. Il est rouillé, on n'est pas sûr qu'on va se rendre, mais on s'est rendu pour le show. Effectivement, premier spectacle que je vois dans ma vie. Tu vois, Bryan Adams, j'aurais aimé ça le rencontrer. Ça n'a jamais arrivé. Ah! On a vraiment essayé 1000 fois, je ne lâche pas. Un jour, j'aimerais ça.
Tu lui as demandé?
Oui, on l'a essayé plein de fois.
Plusieurs fois, tu dis? Ça ne marche jamais?
Mais on a une réponse, alors il y a de l'espoir.
Bon. Garou, apparemment, tu as un lien particulier aussi. Tu aurais été une des premières à triper sur Garou puis à découvrir ce chanteur.
Bien, on a une histoire, c'est drôle, parce qu'on en a reparlé récemment quand il est venu dans son univers. Il dit, quand je te revois, puis ça me fait la même chose. On se retrouve exactement début de vingtaine, tous les deux, on se repart de la même façon. Il était dans un bar. Moi, je ne savais pas qu'il allait chanter. On attendait que le chansonnier parte derrière, puis ça prenait du temps. Il était au bar. Moi, j'étais en peine d'amour. Écoute, j'arrive là tout seul, complètement perdu un soir. Il y a ce gars-là qui me parle à côté. Je fais, coudonc, vas-tu recommencer le chansonnier? À quelle heure il repart? Et là, il me niaise, il continue, il me jase. Finalement, je m'aperçois que c'est lui. Je vois une voix de Joe Cocker écœurant. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ça, cette voix-là? Et à ce moment-là, j'anime La vie en Estrie, qui est un 15 minutes en direct culturel à Sherbrooke. Je dis, il faut que tu viennes demain. Il dit, j'ai pas de guitare, c'est pas à moi la guitare. Je dis, on va te trouver une guitare. Il dit, va falloir que tu me réveilles. Alors, je sonne le lendemain matin parce qu'il dort. Trouve une guitare, amène en onde. On a tapé ça à partir d'un.
Fait que t'as lancé Garou?
Non, pas pantoute, mais on a ce trip-là en commun, en souvenir.
C'est vrai qu'il y a une super voix.
Le vôtre de cette voix-là. Et il y a un charisme. Le gars, il y a un charisme international.
Qu'est-ce qu'il faut pour te toucher en musique, dans ton univers musical? J'ai retrouvé beaucoup dans les suggestions de Vincent, il y avait beaucoup de chansons mélancoliques, je trouve.
Oui, des textes, probablement.
Oui, c'est les textes qui parlent d'abord.
Probablement, des textes de Fred Pellerin, ou des fois juste une musicalité. De ce temps-là, Alexandra Strelitzky, moi, elle est bonne dans tout. Ça va bien, c'est Alexandra. Ça va pas bien, j'angoisse à 2h du matin, c'est Alexandra. Plutôt qu'une petite méditation, ça fait un job aussi.
Moi, je l'écoute pour m'endormir.
Ben, moi aussi. Ça fait un bien immense. Et quand tu connais l'histoire, l'histoire de cette fille-là aussi, tu sais, jusqu'où elle s'est ouverte pour réussir, parce qu'il y a ça. Maintenant, c'est comme si je suis plus capable d'écouter les artistes juste pour leur musique. Si tu me demandes de choisir quelqu'un, je suis contente que tu me les nommes, parce que moi, je serais pas capable de te les nommer nécessairement. Je sais trop par où ils sont passés. Ça fait 20 ans et 11 ans particulièrement où je les croise de semaine en semaine. Je connais trop leurs enjeux, leurs angoisses, par où c'est passé et tout. Je suis pas capable d'écouter un album juste pour la musique. C'est comme s'il faut que ça vienne avec l'histoire de la personne, là où elle est rendue maintenant.
Alexandra est fabuleuse. C'est ça, moi, c'est mon coup de cœur cette année, je pense. Toi aussi?
Tellement. Juste ce qu'elle a dit aussi quand elle a gagné à la disque. Quand
la
elle
douceur.
A dit, exactement, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de la douceur. Il y a quelque chose chez cette femme-là qui et le nombre d'écoutes qu'elle a à travers le monde, ça dit quelque chose aussi, elle fait du bien.
Quelqu'un aussi qui t'a beaucoup marqué, qui nous a toutes marqué, on a à peu près le même âge, Richard Séguin.
Ah ben oui, là, c'est sûr. Moi, quand j'ai commencé à faire ce métier-là, mon but, c'était de rencontrer Richard Séguin.
On voulait tous le rencontrer.
Je suis devenue quelqu'un la journée où j'ai rencontré Richard Séguin. C'était l'aboutissement.
Il était tellement beau!
Il était, puis il l'est encore.
Oui, exact.
C'est l'authenticité.
Et cette chanson-là, chanson pour durer toujours?
Ça, c'est un texte.
Quand même la vie aura perdu son poids, alors j'espère que notre joie sera durée toujours. Alors j'espère que notre joie sera durée toujours.
Je trouve ça magnifique.
C'est magnifique.
C'est magnifique. C'est d'être avec quelqu'un pendant tant d'années, se rechoisir, décider de rester, de s'user ou décider de se rechoisir puis de faire quelque chose avec ça. Je trouve ce questionnement-là extraordinaire.
Ouais. Tu dis aussi, il y a les enfants dans ta vie, très important, les enfants. Ouais. Tu parles beaucoup de ta gang. Ouais. Évidemment, il y a ton chum Vincent, mais il y a tes enfants.
Oui.
Vous avez cru un moment que vous n'en auriez pas ensemble. Mm-hmm. Vous avez adopté. Mm-hmm. Et puis, tu es tombée enceinte.
Oui.
Vincent m'a dit, c'est sûr que si tu dis les deux prénoms de ses enfants...
Elle va brailler.
Ça se peut qu'elle braille. C'est vrai?
Je vais pleurer. C'est ce qui me touche, là, c'est sûr. Puis comme bien des gens, probablement, mais c'est ce qu'on a de plus précieux. Je sais que c'est cliché à dire, mais c'est...
Fait que si je dis Juliette et Théo...
pour moi, je trouve ça beau de voir grandir des enfants. Moi, je suis pas dans « c'est mon enfant ». Je suis vraiment dans « on s'accompagne dans la vie ». Juliette, on l'a adoptée en Chine. Puis quand il arrive quelqu'un pour me dire « oh mon Dieu, c'est beau ce que vous avez fait », pas en tout. Je veux dire, pour moi, c'est pas de l'altruisme, c'est même égoïste. À quelque part, on s'est accompagné dans la vie et on s'accompagne encore.
Et c'est un rôle de parent... égal à celui de tout autre parent. D'ailleurs, dernièrement, tu as fait une sortie publique là-dessus. C'est rare que tu en fasses, France.
Oui.
Et c'est une sortie très justifiée et très juste où tu disais, voyons donc, parce que le gouvernement voulait faire une différence entre les parents d'enfants adoptés puis les parents d'enfants dits naturels, entre autres. On fait souvent des différences selon là. On veut placer le monde dans des cases. Tout ça t'a vraiment fâché.
Moi, ça m'a touché. D'ailleurs, je vous écoutais. C'est comme ça que j'ai écrit. À 2h du matin, je vous écoutais la ligne ouverte ici. J'entendais à répétition dans les bulletins de nouvelles, donc ce qui amenait ça. Je ne pouvais pas comprendre qu'on fasse une différence entre les deux. Et ça n'enlève rien aux parents biologiques, aux mères biologiques qui ont accouché et qui ont quelque chose à ramener de ça. Ça n'enlève rien. Mais le chemin qu'a à faire un enfant adopté et les parents adoptants, ne serait-ce que pour l'attachement, qui est un concept psychologique tellement documenté depuis, qui change tellement de choses après. T'sais, quand Juliette est arrivée, sans rentrer nécessairement dans des détails précis, mais quand elle est arrivée, pendant... au moins huit mois et demi, elle faisait ce qu'on appelle des terreurs nocturnes. Mmh. C'est pas des cauchemars, c'est plus intense que ça. Ils ont les yeux ouverts, tu penses qu'ils sont réveillés, mais ils sont pas, c'était infiniment intense. Et je me suis installée un petit lit de camp à côté de sa couchette pendant plus de 8 mois. Et c'était 10, 12, 15 fois par nuit, des fois 20 fois, où elle se mettait à crier comme ça. Puis là, je passais le bras à travers les barreaux en disant, je suis là, je te promets que je vais être là. T'es pogné avec moi. Ça recommençait. Je suis là. Je te l'ai dit que je serais là, je suis encore là. Ça recommençait 12 fois, 15 fois par nuit, comme je te dis, pendant 8 mois. Et un matin, elle s'est réveillée, il faisait jour, moi aussi. Je fais quoi, le cœur me débattait, je me suis dit, mon Dieu, elle est morte, tu sais. Et je me suis levée au-dessus de son berceau. Elle avait un grand sourire et plus jamais après, plus jamais elle a refait un cauchemar, plus jamais. Mais il a fallu prendre le temps de libérer ça. Puis je pourrais te donner plein d'autres exemples. Quand il faut leur redonner confiance en l'adulte, j'entendais tout à l'heure la DPJ, c'est infiniment touchant, c'est ce que j'entendais avec toi tantôt. Je dis pas que c'est la façon de faire, ça a été ma façon à moi de trouver un lien avec elle, mais il fallait que je lui redonne confiance. Alors, 1000 fois pendant la journée, je promettais quelque chose. Dans 15 minutes, on va manger une pomme. Mm-hmm. Dans une demi-heure, on va aller jouer dehors. Dans 45 minutes, on va écouter Passe-partout. Puis je mettais un timer sur le comptoir. Tout le temps,
puis ça arrivait, tu le faisais.
Ça arrivait tout le temps. Ce qui fait que la première fois où je l'ai laissé au service de garde, où je l'ai laissé à quelque part à quelqu'un, j'ai mis son timer dans ses poches, puis elle a fait « Bye, maman ». Tu comprends? Mm-hmm. Elle savait que...
Tu reviendrais.
Je reviendrais. Ça a été ma façon à moi. Mais ça, ça ne s'installe pas dans une fin de semaine de 3 jours. Tu comprends?
Tellement.
Il y a un temps qui vient avec ça. Là.
France Beaudoin, on s'arrête ici. On vient tout de suite après en entrevue sans filtre.
I'll be home for Christmas. You can plan on me.
Alors, c'est une des tunes préférées de Noël, ouais, de mon invité France Beaudoin, qui adore apparemment les crooners.
J'adore.
De Noël.
Les crooners, Harry.
Oui, Harry Connick Jr.
Exact, qu'on a rencontré justement dans l'univers de Garou. Et tu sais ce qui s'est passé quand il est venu? Parce que quand les internationaux débarquent sur notre plateau, souvent, à la base, quand ils arrivent, ils disent « Bon, moi, je vais jouer avec mes tracks. » Parce que de la télé en direct, comme on en fait, il y en a plus tant que ça à travers le monde. La qualité, eux, c'est sûr qu'ils veulent s'assurer d'une qualité. Ils ne peuvent pas arriver avec n'importe quel musicien. Donc, on les comprend d'être craintifs avant d'arriver. Donc, il nous avait dit, c'est sûr que je vais jouer, on va avoir 2-3 musiciens live, mais le reste, ça va être les tracks. Nous autres, on a dit, OK, on va jouer stratégique. Quand il va rentrer dans le studio, on va avoir tous nos brass, on va avoir tous nos instruments, puis on va faire comme si on pratique. Il va juste nous entendre. Écoute, il est rentré, ça a marché à merveille. On a parti notre première pratique, supposément. Après 3 minutes, il a fait, mais je veux ça, mais c'est sûr, mais je veux ça.
Ça sonne donc bien.
Ça sonne comme ça. Et finalement, il l'a fait live pour vrai avec les musiciens. Hein,
wow.
En une fois. C'était un beau moment pour toute l'équipe. Là. C'était vraiment, vraiment le fun.
Pour Noël?
Oui.
Noël, t'adores Noël, premièrement. Oui. Pourquoi cet attachement à Noël?
Bien, parce que pour moi, c'est assurément des souvenirs vraiment beaux. Je sais que tout est amplifié à Noël et que pour ceux pour qui c'est des souvenirs douloureux, c'est doublement douloureux. D'ailleurs, quand mon père est décédé, je suis allée me coucher à 4 heures le premier Noël qui a suivi, je n'étais pas capable de tolérer ça. Donc, je suis très consciente de ça. Mais chez nous, c'était tellement... C'est pas que c'était des grosses gangs à Noël, mais c'était tellement beau, c'était tellement doux, c'était le fun. Mon père terminait, fermait l'épicerie. Il était comme plus tard le soir, vers 5-6 heures. Il y avait un punch de cachet en arrière du comptoir de la boucherie. On passait en arrière, puis là, on prenait tout ce qui était virtuel, tout ce qui était fruit qu'on allait perdre, parce que dans ce temps-là, on fermait des fois les épiceries pendant 2-3 jours. Donc, on prenait ces virtuels-là, tout ce qu'on allait perdre, on mettait ça dans des sacs. Puis, il me cachait dans ce temps-là, on s'attachait pas non plus. On était dans la boîte du camion. Il me cachait dans la boîte du camion, puis on allait cogner aux portes de ceux qui savaient plus démunis ou plus dans le besoin, puis on débarquait le sac, puis on repartait à la course parce qu'ils disaient, il faut pas qu'ils sachent que c'est nous. Ça s'appelle la dignité, il faut pas qu'ils sachent. On cogne, on sonne, puis on s'en va, puis on repart à la course, puis on refaisait une autre boîte comme ça.
Ça a été un modèle, hein?
Ça a été un modèle, puis en fait, j'ai eu 2 modèles vraiment avec qui j'ai eu des complicités. Mon père a eu cette espèce de drive-là, d'audace. Ma mère a eu cette espèce d'ouverture d'esprit à c'est pas parce qu'on dit que c'est ça que c'est juste... La vérité, elle n'existe pas. Trouve ta vérité à toi, puis elle va changer d'une journée à l'autre. Donc, ces 2 affaires-là ensemble, ils m'ont donné, en fait, j'ai pas confiance en moi, top 100% tout le temps. Mais j'ai une base. Ils m'ont donné confiance en mes possibilités, aux possibilités de la vie, ce qui fait que j'essaie, je risque. Souvent, je suis all-in, peut faire peur aux gens autour, mais il y a quelque chose en dedans de moi qui fait que l'erreur n'est pas une erreur. C'est une expérience. Et ça fait en sorte que tu n'as pas les ailes coupées.
Partons, la mer est belle.
Ah oui.
Partons, la mer est belle. Embarquons-nous, pêcheurs.
Ça, c'est la chanson de ton papa.
Et je ne sais pas pourquoi. Il y a juste moi qui se souviens de ça. Je descends dans le sous-sol un jour, puis il pleure là-dessus, alors que mon père pleurait jamais, chantait jamais, parce que c'est du côté de ma mère que ça pleure, que ça chante. Et je ne sais pas, moi, je descends, j'ai ce souvenir-là, j'ai posé des questions à tout le monde. Personne n'a aucun souvenir de ça, sauf moi, mais moi, je l'ai tellement fort en dedans de moi que comme un vaccin, il a fallu que je l'écoute, que je l'écoute, que je l'écoute pour essayer de me sortir.
Et aujourd'hui, elle te touche,
cette chanson. Elle me touche, mais elle ne me fait plus brailler comme avant, mais elle me touche parce que c'est un souvenir présent, évidemment.
C'est une belle chanson. Ouais. Merci beaucoup, France.
Merci à toi.
Merci, merci, vraiment. France Beaudoin, on a essayé de pénétrer un petit peu ton univers musical qui est tellement large. Je te propose un Sans filtre 2.
Ah, quand tu veux. C'était très agréable. Quand
merci
tu veux.
À toi. Puis bien sûr, on regarde tes émissions. Vous êtes en spécial de Noël. Oui. Bref.
Oui, on a pour emporter ce vendredi 20h puis au jour de l'an.
Merci à tout le monde.